Partout où nous avons habité, avec un bout de terrain, j'ai planté des arbres fruitiers. Cette manie doit tenir de mon patrimoine génétique parce que mon grand-père maternel possédait des forêts, plusieurs vergers, et il aimait les arbres. J'ai eu un abricotier qui donnait des fruits délicieux et un prunier aussi. Par contre, j'ai trouvé difficile d'obtenir des bonnes poires et je n'ai pas bien réussi avec la vigne et le figuier, deux arbres qui étaient très prisés par les Israélites depuis qu'ils s'installèrent en terre promise. Je continue à lire dans le chapitre 9 du livre d'Osée. J'ai trouvé Israël comme un plant de raisin au milieu du désert et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à Baal-Péor, ils se sont consacrés à cette idole infâme et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. Verset 10. Trouver des raisins en plein désert serait une surprise très agréable et les premiers fruits du figuier sont irrésistibles. C'est par cette comparaison touchante que Dieu exprime son plaisir et son affection pour Israël naissant quand il est sorti d'Égypte. Mais sa joie fut de courte durée. Dès que les Hébreux eurent atteint la terre promise, ils ont refusé d'y entrer par peur des Cananéens, alors que l'Éternel leur avait garanti la victoire. Leur punition fut de mourir dans le désert. Puis, après bien des péripéties, la génération suivante est arrivée aux portes de la Palestine. Mais alors qu'ils campaient en face du pays promis, des jolies femmes sont venues les aguicher. Alors, en leur compagnie, ils ont fait une bringue à tout casser qui aurait fait rougir de honte un légionnaire romain. Mais le pire est que cette orgie avait une base religieuse car elle était associée à un rite de fertilité en l'honneur de Baal-Péor, l'idole infâme. C'était le Baal habituel, mais localisé. Le prophète Osée choisit cet événement parce qu'il présageait que la caractéristique essentielle d'Israël durant toute son histoire serait son infidélité à l'Éternel. C'est ainsi qu'au temps du prophète Osée, dans le territoire des 10 tribus, c'était Baal-Péor revisité. Afin d'obtenir la prospérité, les Israélites adoraient Baal en participant au rite de fertilité en compagnie galante, celle des prostituées sacrées. Je continue le texte. « La gloire d'Éphraïm fuira à tire d'aile comme un oiseau. Il n'y aura plus de naissance, plus de grossesse et plus de conception. » Verset 11. « Le châtiment d'Israël sera à la mesure de ses péchés. Éphraïm signifie « fécond », mais puisqu'il s'est donné corps et âme aux idoles, ses nombreux fils qui faisaient sa gloire disparaîtront tués ou déportés. Ainsi, Éphraïm perdra la fécondité que Dieu lui avait donnée. » Je continue. « Et même s'ils élevaient des enfants, je les en priverai avant que ceux-ci soient adultes. Oui, quel malheur pour eux quand je serai loin d'eux. » Verset 12. « Le peu d'enfants qui naîtront périront jeunes, ou se dilueront dans la masse des peuples païens, parce que l'Éternel ne les protégera plus. » Et en effet, que sont devenus ces Israélites des 10 tribus exilées en Assyrie? On n'en a jamais retrouvé la moindre trace. Cette prophétie s'est donc accomplie à la lettre. Il faut dire aussi que les Israélites ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour contrecarrer la promesse que Dieu avait faite à leur ancêtre Abraham, quand il lui a dit « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. » C'est à contre-cœur que l'Éternel a dû juger son peuple et l'envoyer en exil. Cependant, la promesse qu'il a faite à Abraham tient toujours et à la fin des temps, elle s'accomplira à la lettre. Je continue. Éphraïm, je le vois, a fait de ses fils une proie. Éphraïm va devoir envoyer ses enfants vers celui qui massacre. Verset 13. Le prophète utilise un nouveau parallélisme poétique afin de bien enfoncer le clou, pour ainsi dire. Encore qu'ici, il s'agit plutôt d'un glaive. Éphraïm, qui représente Israël Nord, est personnifié et il est comme un père qui conduit ses enfants à la mort car ses habitants vont devenir de la chair à épée quand les Assyriens envahiront le pays. Je continue. Donne-leur, Éternel, que leur donneras-tu? Un ventre qui avorte et des seins desséchés. Verset 14. Les prophètes n'avaient pas peur de choquer par leurs propos. Osée est indigné par la conduite des Israélites du Nord et il s'accorde avec l'Éternel pour demander leur châtiment. Un ventre qui avorte et des seins desséchés ne produisent pas d'enfants. Cette tournure poétique et brutale exprime une fois de plus la fin du royaume des 10 tribus. Que les Israélites conçoivent ou pas des enfants en terre d'exil, c'est du pareil au même puisqu'aucun d'entre eux ne reviendra au pays. Contrairement aux habitants de Juda qui furent déportés par les Babyloniens, ceux qui ont été exilés par les Assyriens ont entièrement disparu. Je continue. Or, toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal et c'est là que j'ai pris ce peuple en aversion. Leurs actions sont mauvaises, c'est pourquoi je les chasserai de mon pays. Je cesserai de les aimer, car tous leurs chefs sont des rebelles. Verset 15. Les mots chef et rebelle font assonance en hébreu, ce qui met l'accent sur leur culpabilité en tant que responsable du peuple. L'Éternel est très fâché avec sa femme Israël parce qu'elle est infidèle et a commis l'adultère avec les idoles. Pour cette raison, il l'a prise en aversion, la répudie et la chasse de sa maison, qui est la terre promise, et il ne l'aimera plus, ce qui veut dire qu'il lui retire sa tendresse et sa protection. La nation rebelle a manifesté ses œuvres mauvaises à Gilgal, un sanctuaire idolâtre proche du Jourdain et très fréquenté par les Israélites du Nord. Comme ils ont pratiqué les mêmes péchés que les Cananéens, ils subiront le même sort qu'eux et seront donc expulsés de Palestine. Je finis le chapitre 9. Éphraïm est frappé et sa racine est desséchée. Ils ne produiront plus de fruits, et même si leurs femmes ont des enfants, j'enverrai à la mort les enfants qu'ils chérissent. Dieu les rejettera, car ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants au milieu des nations. Versets 16 et 17. Les arbres fruitiers meurent souvent une branche ou deux à la fois, jusqu'à ce que toutes se dessèchent ainsi que la racine. C'est ce qui arrivera à Israël Nord, qui était pourtant un bel arbre produisant des fruits en abondance. Il disparaîtra, car aucun de ses enfants ne reviendra en terre d'Israël. La sentence de l'exil, « Ils seront errants au milieu des nations », résume bien tout le chapitre 9. Nous arrivons au chapitre 10, où le prophète continue à montrer que la destruction imminente d'Israël Nord est justifiée par ses nombreux péchés. Je commence à le lire. Israël est semblable à une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits abondaient et plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il embellissait les stèles pour ses divinités. Verset 1. Comme on plante une vigne, l'Éternel a établi la nation d'Israël dans le pays de Canaan. Le psalmiste écrit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, puis tu as chassé des nations et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle et elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes, ses sarments ressemblaient au plus grand cèdre. » Elle étendait ses vrilles vers la mer et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. » Fin de citation. L'opulence dont parle le prophète Osée correspond à la situation d'Israël Nord sous le règne de Jéroboam II. Le peuple dans son ensemble jouissait d'une relative prospérité suite aux victoires militaires de son roi contre ses voisins. Mais cette bonne fortune fut un piège pour Israël, parce que le peuple et ses chefs l'attribuèrent aux idoles, Baal en tête, au lieu de l'Éternel. Pourtant, par la bouche de Moïse, Dieu avait sévèrement averti les Hébreux de ne pas commettre cette faute. Je lis un passage. « Quand tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. » Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Prends donc garde de ne pas te dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. » Fin de citation. Quand Jésus a dit « Je suis le vrai plant de vigne », il enseignait qu'avec sa venue sur terre, tout avait changé. Au lieu de s'associer à Israël, ses disciples devaient désormais s'identifier à lui parce que pendant un temps, la nation juive serait supplantée par l'Église que Jésus allait établir et dont il serait le chef. Une fois celle-ci constituée, elle sera enlevée dans les cieux. Mais en attendant, l'accès à Dieu ne se fait plus par le biais des rites et des sacrifices offerts au temple, mais par le Christ au travers de son sacrifice. Je continue le texte. Leur cœur est faux, mais ils vont maintenant devoir payer leurs fautes. Lui, l'Éternel, brisera leurs autels et renversera leurs stèles. Verset 2. Les Israélites s'étaient spécialisés dans le syncrétisme religieux le plus vil. D'une part, ils adoraient les idoles les plus grotesques, au point de leur sacrifier de jeunes enfants, et d'autre part, ils leur associaient l'Éternel, le Dieu unique et vrai, et lui offraient une coquille vide, un culte formaliste, hypocrite, stérile et vain, dénué de toute dévotion qui proviendrait d'un cœur sincère. Il n'est donc pas étonnant que le jugement va tomber sur Israël avec violence. Je continue. Et alors ils diront, nous n'avons pas de roi. C'est parce que nous n'avons pas révéré l'Éternel. Et puis si nous avions un roi, que ferait-il pour nous? Verset 3. Suite à l'invasion d'Israël Nord par les Assyriens, sa structure politique s'effondrera et son dernier roi, qui s'appelle Osée comme le prophète, partira en exil. Suite à ce malheur, les Israélites vont enfin réaliser que leurs infidélités à l'Éternel est la raison du châtiment qu'ils subissent. De toute façon, une fois dispersés parmi les Assyriens, un roi leur serait inutile puisqu'ils ne pourraient rien faire pour les aider. Je continue. Ils donnent leurs paroles, ils font de faux serments, ils concluent des alliances et les procès se multiplient comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Verset 4. Les Israélites du Nord n'avaient de loyauté ni envers l'Éternel, ni envers leurs prochains. D'une part, ils ne manifestaient aucune révérence sincère envers l'Éternel et ne le vénéraient pas. Et d'autre part, ils se rendaient coupables de parjure en n'honorant pas leurs paroles données devant témoins. En conséquence, ils étaient devenus très procéduriers, au point où le prophète, poète, dit que leurs nombreux procès étaient comme une plante vénéneuse qui se multiplie dans les sillons des champs. Je continue. Ils ont peur pour les veaux de Beth-Aven, les habitants de Samarie, et à cause de lui, ses prêtres et son peuple prennent le deuil à cause de la gloire qui lui a été enlevée. Verset 5. Ici, le mot pour prêtre vient de la langue syriaque. Transposé en hébreu, il veut toujours dire « faux prêtre » et plus spécifiquement de l'idole Baal. Dans une vision prophétique, Osée voit ce qui va se passer lorsque les Assyriens envahiront le pays, détruiront tout sur leur passage et emmèneront les veaux d'or. Il y en avait deux et ils étaient situés l'un tout au nord dans la ville de Dan et l'autre au sud proche de la frontière avec Juda à Bethel, qui veut dire « maison de Dieu », mais que le prophète dénigre en l'appelant « Beth-Aven », qui signifie « maison de néant ». À cette époque, après une guerre, les vainqueurs emportaient avec eux les idoles des nations conquises et les détruisaient ou les plaçaient dans leurs temples afin de bien montrer que leur Dieu était plus fort que ceux des vaincus. Littéralement, Osée dit que les habitants de Samarie ont peur pour les génisses de Beth-Aven et non pas pour les veaux. En effet, outre le veau d'or que Jéroboam Ier avait fait ériger dans ce sanctuaire, il y avait certainement d'autres idoles du même gabarit. Voilà pourquoi le prophète donne le nom de génisse à toute cette faune. En tout cas, à l'annonce de l'arrivée des Assyriens, le peuple superstitieux et ses prêtres redoutent le sort qui attend ce pauvre veau qui va devoir partir en exil. Nous ne manquerons pas de verser une grosse larme pour lui à titre posthume, sachant que les Assyriens iconoclastes vont brûler l'idole et faire fondre l'or pour le récupérer. Cela dit, un peuple qui se fait du souci pour la sécurité de ses dieux a un gros problème. Mais les Israélites n'en étaient pas conscients, ce qui montre combien la crédulité des incrédules, de ceux qui rejettent le Dieu créateur, est un puits sans fond. Le 12 février 2009, on a commémoré de par le monde le 200e anniversaire de la naissance de Darwin. Or, tous les jours, et je n'exagère pas, on fait de nouvelles découvertes qui révèlent la complexité stupéfiante du corps humain. Mais peu importe, les évolutionnistes transformistes clament haut et fort que tout s'est fait tout seul, et dans leur arrogance, ils n'en démordront pas jusqu'à leur dernier souffle, du moins officiellement. Je continue le texte. Le veau aussi sera emporté bientôt en Assyrie et sera offert au roi batailleur, et Éphraïm récoltera la honte. Israël rougira de ses desseins. Verset 6. Quand les Israélites seront envahis par les Assyriens, ils réaliseront la stupidité de leur politique étrangère, et en particulier leurs alliances qui alternaient tantôt avec l'Assyrie et tantôt avec l'Égypte. Finalement, ils ont ouvert tout grand la porte à leurs ennemis. Ça me rappelle l'histoire proverbiale du chameau qui, lors d'une violente tempête de sable dans le désert, a passé le museau dans la tente de son maître, qui a négligé de le repousser. Alors l'animal a continué avec la tête, ce qui a déclenché la fureur de son maître, mais c'était trop tard. Le chameau est alors entré avec toute sa masse à l'intérieur de la tente, et c'est son maître qui a été obligé de sortir dehors. En concluant une alliance indécise avec la Syrie, Israël a fait un pacte avec le diable. Il a joué avec le feu et s'est brûlé. Je continue. Samarie est détruite. Son roi est comme une brindille emportée par les eaux. Verset 7. En hébreu, le mot pour emporter signifie détruit. Le roi d'Israël Nord va subir le même sort que le veau d'or. Il sera arraché de son trône et balayé comme un fétu de paille. On sait qu'il a été emmené en Assyrie, mais pas ce qu'il est devenu, sinon qu'il est mort en terre d'exil. Je continue. Les hauts lieux criminels où péchait Israël seront détruits. Les chardons et les ronces croîtront sur leurs autels. Alors ils diront aux montagnes, recouvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Verset 8. La mention de la destruction des hauts lieux idolâtres est ironique et aussi l'accomplissement d'une des nombreuses malédictions prévues par la loi qui, comme je l'ai déjà dit, était un contrat d'alliance entre l'Éternel et son peuple. Dieu avait alors mis en garde les Hébreux disant « Si vous me résistez, je vous résisterai avec fureur, je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs ». J'abattrai vos stèles vouées au dieu du soleil, et j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et je vous rejetterai. Je réduirai vos villes en ruines, je ravagerai vos sanctuaires, et j'en ferai des lieux déserts. Je ne me laisserai pas apaiser par le parfum de vos sacrifices et de vos offrandes. Je dévasterai moi-même le pays, de sorte que vos ennemis venus l'occuper en seront stupéfaits. » Fin de citation. La destruction des sanctuaires idolâtres par les Assyriens est ironique parce que, quand les Hébreux ont pénétré en terre promise, l'Éternel leur avait ordonné d'abattre tous les hauts lieux idolâtres des Cananéens. Mais, selon leur habitude, ils n'ont pas vraiment obéi. Non seulement ils n'en ont détruit qu'une partie, mais dès qu'ils furent installés dans le pays que Dieu leur avait donné, Ils se sont engagés dans la même voie que les Cananéens. Alors, l'Éternel utilise une nation étrangère et idolâtre pour finir le travail que plusieurs siècles plus tôt, les Hébreux avaient bâclé. À l'approche des armées assyriennes, les Israélites diront aux montagnes « Recouvrez-nous » et aux collines « Tombez sur nous ». Ce cri de terreur provient de la réalisation que cette invasion est en réalité un châtiment de l'Éternel. Ce cri donne froid dans le dos car il montre qu'il est préférable d'être englouti par les montagnes qu'atteint par le jugement de Dieu.